Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir sur la 93.5 pour cette émission Club de la Presse, puisqu'il sommes déjà 11h. Et vous savez que 11h, c'est l'heure à laquelle l'émission démarre. Bienvenue au Club pour le prochain Sénat qui sera mis en place à travers les sénatoriales du 2 février 2025. Maître Mohamed Tassouna Traoré, président du MCD et actuel président du CPC, propose que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, nomme le tiers du Sénat dans le rang de l'opposition politique. Selon lui, cette mesure renforcerait la légitimité et la représentativité politique de cette institution clé. Cependant, la DMP, à travers un communiqué, estime que les élections sénatoriales s'inscrivent dans la continuité d'un processus de coup d'État constitutionnel en cours et refuse de s'associer à ces élections. Et selon la DMP, participer à ces sénatoriales serait une trahison envers le peuple. Nous aborderons le sujet et d'autres sujets liés à l'actualité dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 12 décembre 2024. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Victor Guetomega assure la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Niamtougou et puis Radio Koktoazi à Dapaon. Club de la Presse, vous le savez très bien, vous nous suivez aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos médias en ligne ou les radios en ligne, Ibn Radio et Radio Lebéré. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays et aussi alors du continent africain, sans oublier le monde entier. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Ambroise Yao Kondo, bonjour.
Oui, ça c'est Pascal, bonjour. Bonjour les confrères ici présents. Je voudrais profiter de cette occasion pour attirer l'attention des uns et des autres sur l'état, le phénomène de la corruption qui sévit chez nous au Togo. La corruption est devenue une drogue dans notre pays. Et hier, on était à une rencontre de l'ARCOP sur le rapport de cette institution sur l'état de la corruption dans les marchés publics, les irrégularités qui ont été constatées dans la passation des marchés publics et connexes dans le pays. Et moi je voudrais tout simplement dire que ce soit au niveau de nos services publics, ceux qui servent les citoyens dans un cadre d'intérêt général, puissent se départir de ce phénomène de la corruption. Parce qu'on sent que la corruption c'est devenu c'est comme si c'est devenu une règle, c'est-à-dire que c'est devenu la loi qui c'est la règle au lieu d'en être l'exception.
La corruption est normalisée chez nous, c'est ça?
Elle est systémique, c'est-à-dire que elle est devenue un système. Tu veux aller faire une photocopie rapidement et peut-être même que c'est les deux personnes qui sont comment dirais-je, qui sont à l'origine du phénomène. Parce que celui qui est venu n'a pas forcément besoin de corrompre, mais c'est l'autre qui lui dit bon tu peux aller revenir, alors qu'on peut tout de suite le faire immédiatement et qu'il prenne son dossier avant de partir. Il dit bon, il y a plein de dossiers ici, tu peux aller revenir, c'est 24 heures, c'est 48 heures, alors que sur le champ ça peut se faire. Et là, au même moment, tu vois d'autres personnes venir en même temps les prendre parce que ayant glissé 500 francs ou 1000 francs. Ça, c'est la corruption. Ça, il n'y a pas de petite corruption. Et donc.
Mais entre-temps, on parlait de petite corruption et de grande corruption.
Oui, moi, je dis qu'il n'y a pas de petite corruption. Parce que celui qui a une fois volé un poulet, dans un mois, peut voler un bœuf. Et donc, quand ça commence comme ça, si on n'arrête pas, il deviendra un grand voleur. Et un corrupteur ou un corrompu, c'est un voleur. Ça, il faudrait qu'on n'arrive pas à faire une démarcation. Ça, il n'y a pas de démarcation entre les deux. Quelqu'un qui prend un dessus de table pour rendre un service public, c'est un voleur. C'est comme un détourneur de fonds de deniers publics. Et donc, moi, j'encourage l'ARCOP à continuer dans ce sens. Et hier, on a eu à faire des échanges. Nos propositions étaient que de sillonner tout ce qui est service public, les ministères, les départements publics, tout ce qui est collectivité territoriale, c'est-à-dire les communes. Comment les marchés ont été passés? Et à quelle période? Quels sont ceux qui ont décidé pour que ces marchés-là soient passés? Les PRMP, c'est-à-dire les personnes responsables des marchés publics, quel a été leur rôle déterminant dans la passation de tel ou tel marché? Est-ce qu'ils ont, ou est-ce qu'elles ont été griffonnées par leur patron, c'est-à-dire les ministres, les maires, pour pouvoir passer un marché de façon frauduleuse? Le gré à gré aussi est aussi encadré dans notre pays. Il y a des marchés gré à gré à un plafond de montant qu'on peut faire. Mais dépasser ce montant-là, vous tombez dans le cycle de la corruption. D'accord. Et de détournement. Mmh. Donc moi, je voudrais qu'aujourd'hui, oui, on puisse chacun faire l'effort. Parce que c'est difficile d'aller faire la légalisation ou le duplicata d'une nationalité. Tout de suite, et tu le prends, et qu'on te dise d'aller revenir alors que tu pouvais le faire en même temps.
Oui, Ambroise, on va en parler dans cette émission. Je sais, il y a le journal Le Changement également qui en parle déjà. Et donc, on va revenir sur le sujet dans cette émission. Et l'homme Kossi Atisobi, bonjour.
Bonjour, bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Oui, ça va, on rend grâce à Dieu.
Dieu merci, ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. On attend aussi notre confrère Michel Yaoutadja qui va nous rejoindre incessamment. Nous allons parler de cette initiative, le corps de crise, qui est convié au GNRD. GNRD, c'est la journée nationale alors de reconnaissance à Dieu. Et ce serait à sa 12e édition le dimanche prochain. Et pour en parler, j'ai mon confrère Bena Larry. Bena, bonjour.
Bonjour, Ambroise.
Et comment vous allez?
Je vais très bien.
C'est plutôt Pascal.
Pascal, merci. Voilà. Merci pour la précision.
D'accord. C'est vrai que on serait à la 12e édition de la journée nationale de reconnaissance à Dieu. Oui. D'abord, parlons de la genèse alors de cette initiative. Qu'est-ce qui justifie même d'ailleurs cette initiative?
Ben, ce qui justifie l'initiative, c'est notre devoir de rendre grâce à Dieu et de lui dire merci pour tous ses bienfaits. Et ça, nous le faisons de façon individuelle, mais quand c'est le peuple encore qui le fait de façon regroupée, et cela plaît au Seigneur. Parce que la Bible nous dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Comment est née la GNRD? C'est parti de la célébration des 10 ans du groupe d'évangélisation et de musique chrétienne Salut et Joie, qui en 2003 avait fait et ses 10 ans d'existence. Alors, pour cet événement, le groupe a décidé de réunir et les autorités et les pasteurs, c'est-à-dire les responsables d'églises, des églises partenaires, puisque c'est un groupe d'évangélisation qui travaille avec les églises. Donc, il a décidé de regrouper et les autorités et les églises partenaires pour une célébration. Alors, ce fut une soirée mémorable et le président d'alors a dit, ben, pourquoi ne pas étendre cette célébration pour réunir chaque année tout le peuple afin de dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies individuelles et dans la vie de la nation togolaise en général. Donc c'est de là qu'est partie la célébration de la journée nationale de reconnaissance à Dieu.
D'accord. Alors parlons de cette 12e édition. Où et quand cela va se dérouler? Alors cette année
nous aurons 15 points de célébration en plus de la capitale, bien sûr, Lomé. Et pour l'apothéose, c'est ce dimanche, comme vous l'avez dit, et c'est au stade municipal de Lomé, derrière l'hôtel 2 février ici. Mais nous aurons également la célébration à Dapaon, à Tandjouaré, à Kara, à Bassar, à Pagouda, à Sokodé, à Sotouboua, à Blita, à Takpamé, Balimé, Ngotien, Thévié, Tabligbo et Vaughan.
Et c'est toute l'étendue du territoire national.
C'est sur toute l'étendue, oui. C'est une journée nationale de reconnaissance à Dieu.
Voilà. Alors, parlons de ce qui va se passer sur le terrain omnisport de Lomé.
Oui.
C'est quoi le programme déjà, Bénin?
Bien, il y aura une quinzaine de chorales qui vont se succéder sur la scène pour des prestations et nous aurons des moments de prière. Nous aurons des moments de louange et d'adoration avec plusieurs groupes et orchestres qui nous accompagneront. Et le tout sera clôturé par un méga concert où nous aurons plusieurs artistes de la chanson gospel avec nous.
Alors, deuxième édition, c'est quoi le bilan que vous pouvez établir aujourd'hui?
Ben, le bilan, c'est une satisfaction générale avec une adhésion de plus en plus accrue à cet événement, parce que l'année passée, nous avons célébré cet événement sur 12 sites. Aujourd'hui, 3 nouveaux sites se sont ajoutés. C'est-à-dire qu'au fil des ans, beaucoup de régions, beaucoup de localités réclament que l'événement soit célébré de façon locale chez eux pour leur permettre également de participer. Donc, c'est ce qui fait notre satisfaction que le peuple, que la nation adhère à cette célébration. Et l'innovation cette année, c'est que nous avions eu le samedi dernier une journée nationale de salubrité publique où toutes les églises se sont engagées à faire le nettoyage dans leur quartier, dans les environs. Ce samedi 14, nous aurons une opération de consultation médicale foraine et ce serait à partir de 8 heures au siège du groupe Salut et Joie et je précise que ces consultations sont gratuites. Et
des consultations gratuites auxquelles même d'ailleurs vous invitez les uns les autres.
Les uns les autres, tous ceux qui ont des problèmes de santé et qui n'ont pas les moyens de se faire suivre sont invités à ce programme.
Mais est-ce que vous avez un témoignage particulier par rapport ou une anecdote par rapport à cette célébration depuis sa genèse.
Ben les anecdotes se multiplient et chacun en a la sienne. Moi je me rappelle quand même que qu'à une édition le chef de l'État était présent et il s'est permis n'est-ce pas de venir dire merci à la population qui s'est déplacée. C'était au stade de Kégué et bon, sans protocole il était descendu. Et le protocole d'État lui avait fait signe de rentrer dans son véhicule, mais ce n'était pas prévu. Il a préféré faire le tour du stade de Kégué à pied pour dire merci à la population d'avoir effectué le déplacement et dire merci également aux organisateurs puisqu'il est monté sur la scène pour serrer la main aux artistes qui étaient sur la scène. Et quand il parlait, la presse lui a demandé ses sentiments et il a dit que non, qu'il est juste venu aussi dire merci à Dieu et pour sa vie et la vie de la nation qui n'est pas venu en tant que chef de l'État avec tout le protocole qu'il faut. Et en 2019 également, quand il est arrivé au stade municipal ici, pour la circonstance, vous savez, quand le chef de l'État vient, il y a la garde d'honneur, le tapis rouge et tout, non? Et il a demandé que le protocole évacue tout cela parce qu'il n'est pas venu à une manifestation politique. Il est venu comme simple citoyen pour adorer le peuple comme tout le monde.
Alors, Bernard, est-ce que vous avez l'impression que toutes les dénominations possibles s'impliquent alors dans cette journée de reconnaissance à Dieu?
Bien, j'ai parlé tout à l'heure de la marche des chorales. Il faut venir au stade pour constater, nous n'allons pas parler en l'air, pour voir la provenance des chorales qui vont prester durant cette manifestation. Et au niveau de l'organisation, aujourd'hui, c'est le corps de Christ qui s'est approprié cet événement. Et quand on parle du corps de Christ au Togo, on parle de toutes les églises réunies, c'est-à-dire toutes les associations, les fédérations et les mouvements d'église qui sont ensemble pour l'organisation de cet événement.
Alors finalement, c'est quoi l'ambition? C'est-à-dire, quand on prend les perspectives dans 10, 20 ans, qu'est-ce que vous ambitionnez pour la journée nationale de la reconnaissance à Dieu?
Moi, je ne parlerai pas d'ambition, mais je parlerai tout simplement de souhait. Et notre souhait, c'est que cette journée soit instituée et qu'on sache que chaque année, à une date précise, le Togo dégage un moment, une journée, pour se retrouver et dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, pour ce qu'il fait dans ce pays. Nous jouissons de la protection divine. Nous jouissons de la paix. Nous jouissons de la sécurité. Et quand il y a des problèmes, nous nous tournons vers Dieu et nous demandons son intervention. Il ne nous lâche pas, il intervient. Donc, c'est une raison pour nous de nous retrouver chaque année pour dire merci à Dieu. C'est pourquoi notre souhait est que, comme cela se passe aux États-Unis, au Canada, au Ghana, en Ouganda, au Rwanda, dans plusieurs pays, que le Togo aussi puisse dégager une journée pour venir dire merci à Dieu.
Maintenant, parlons des artistes qui seront présents le dimanche prochain, c'est-à-dire le dimanche 15 décembre 2024. Quels sont les... Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces artistes qui seront présents?
Je ne donnerai pas une liste exhaustive, mais je vais citer quand même quelques noms. Nous aurons Madame Pasteur Abitor Makafui, le couple emblématique John and Gifty. Nous aurons également Adjoasika, nous aurons le chanteur Vénounier, la petite merveille Abraham David et plusieurs groupes musicaux. Nous aurons également Miab Kwaya qui seront avec nous, la chorale, la grande chorale des Assemblées de Dieu et puis l'orchestre de l'église Pentecôte du Togo. Ce sont en quelque sorte ces personnes-là et ces groupes qui animeront le grand concert d'apothéose.
Vous avez parlé tout de suite alors de la présence du chef de l'État dans certaines éditions de cette journée nationale de reconnaissance à Dieu. Est-ce que cette année, le chef de l'État répondra présent. Est-ce qu'il viendra?
Pascal, si je vous retourne la question, je crois que vous n'aurez pas de réponse à ce jour. Parce que nous savons, c'est le président de tous les Togolais. Et s'il décide de venir à cet événement, ça reste dans le secret de son protocole. Donc, nous n'avons jamais su, à des jours avant, que le président de la République répondrait à cet événement. Les invitations seront parties au niveau de toutes les institutions et c'est le jour J que nous savons que celui-ci a répondu ou pas.
Et pour participer à cette journée, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les conditions?
Ben, il faudra juste se lever le dimanche là, après le culte, et se déplacer. L'entrée est libre et gratuite.
C'est l'essentiel.
C'est l'essentiel.
Alors, et si vous avez un mot de la fin pour des auditeurs, des gens qui sont dans le corps de Christ et pour les motiver à venir, qu'est-ce que vous allez leur dire, Bénin?
Je leur dirai tout simplement que nous avons l'habitude de dire que 365 jours, ce n'est pas 365 minutes. Ce n'est ni 365 secondes. Et si Dieu nous a préservés durant toute une année, souvent ce qui se passe, c'est que le 31 décembre, tout le monde fait l'effort de se rendre dans une église pour au moins dire merci à Dieu de l'avoir gardé au cours de l'année. Bon, maintenant, pour ce que Dieu a fait dans la vie de la nation, nous avons quand même le droit de lui dire merci. Et c'est ce qui justifie la tenue de cette journée nationale de reconnaissance à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies de façon individuelle et ce qu'il fait dans la vie de la nation togolaise tout entière pour sa protection, pour sa paix, pour sa sécurité et profiter de l'occasion pour lui confier notre pays, le Togo, pour la nouvelle année qui s'annonce. C'est ce qui constituera l'ossature du programme de cette journée nationale de reconnaissance à Dieu. Merci. Et je crois que tout le monde cherche le bien de la nation togolaise et venons et prions ensemble, demandons à Dieu de continuer par intervenir dans notre cher pays, le Togo.
Venons à Dieu et demandons certainement à Dieu alors de continuer par intervenir pour la vie alors du Togo. Oui. Bénin Larré, merci d'être passé dans cette émission.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, ça fait toujours plaisir et donc nous sommes tous appelés à cette action, cette journée d'action de grâce le dimanche prochain et à Lomé, c'est bien, oui. Sur le terrain alors de Omnisport
de Lomé, derrière l'hôtel de Février.
Justement derrière l'hôtel de Février. Donc, merci. Voilà. Et nous ferons le déplacement. Merci beaucoup, Bénin. Voilà. Alors, chers confrères, on revient en plateau alors pour parler d'autres sujets, mais déjà, Elom, Je ne sais pas si vous avez appris justement l'information. La presse est frappée encore par un deuil et c'est ce matin que nous avons appris même l'information. Il y a notre confrère Charles Midi qui nous a quittés. Charles Midi, il est journaliste à TV2 et on l'a connu là. Nous avons même fait un certain nombre de cursus ensemble. Mais quand nous avons, moi personnellement, j'ai appris l'information ce matin, je suis tombé des nuits, comme on le dit.
Oui, c'est une nouvelle avec laquelle nous nous sommes réveillés ce matin. Timoré, affligé, abattu, parce que justement Charles Midi, c'est un confrère que nous connaissons, qui a fait TV2, comme vous l'avez dit, qui est actuellement, enfin qui était à la communication du Centre National d'Assistance aux Réfugiés, le Sénat. Et c'est quand même une grosse perte aussi pour la corporation, parce que vous savez, 2024 a avalé beaucoup de confrères, et je ne sais pas si on doit se rappeler toutes ces personnes de plumes qui sont parties, et c'est quand même terrible. C'est terrible de se réveiller comme ça avec une nouvelle qui fait froid dans le dos. On n'a pas appris qu'il était malade, on n'a pas appris qu'il était souffrant, qu'il souffrait d'une pathologie particulière. Et c'est comme ça, c'est une nouvelle qui nous a tous glacés ce matin. Paix à son âme et que la terre lui soit légère.
Justement, paix à son âme et que la terre lui soit légère. Et c'est vrai, Ambroise, le paradoxe, c'est que justement nous n'avons pas appris que Charles était malade. Le mercredi dernier, nous étions même ici, il était chez moi ici à Radio Canal FM pour une émission, et puisque tel que l'homme l'a dit, il assure la communication d'une structure de la place, et il était là pour une émission. Nous avons discuté ensemble et là, hier, on nous dit que Charles nous a quittés.
Oui, c'est une triste nouvelle. Que Dieu nous accorde sa miséricorde, parce que nul ne connaît l'heure ni le jour, dit la Bible. Moi, je crois que je le connais à peine, parce que je vois la photo, mais je ne sais pas si je le connais réellement. Mais étant donné qu'il est journaliste et qu'il est togolais et qu'il est humain comme moi, je compatis à la douleur de la famille, à sa famille consanguine et à sa famille corporationnelle. Toute nouvelle qui tombe comme ça attriste toujours. Surtout que jeune il est. Quand je vois sa photo, je crois qu'il est. C'est un jeune. Je ne crois même pas qu'il dépasse les 40 ans. Mais je me dis que c'est sérieusement triste. Mais on ne peut rien. Nous allons prier pour nous, les autres qui sommes toujours en vie, par la grâce. On est là par la grâce. Sinon, on n'a aucune force. C'est Dieu qui donne le souffle. Et c'est Dieu qui reprend. C'est vrai qu'il y a certains pourris, maudits, qui attendent toujours la vie des autres. Mais si Dieu ne décide pas de ton sort, je ne crois pas que tu puisses y aller aussi vite comme mon confrère là. Il y en a aussi qui souffrent en silence, mais qui ne le disent pas.
Il y a ça aussi, justement.
Il y a ça, ce qui conduit certains à aller au suicide. Le suicide n'est pas la solution. Heureusement que lui, on n'a pas parlé de suicide. Mais ça m'a permis d'ouvrir cette brèche-là pour dire que la situation, elle est criarde pour tout le monde. Elle est criante et elle est désobligeante au point que certains trouvent vite des solutions de fatalité. Mais on va prier Dieu pour son âme, parce que c'est ce qui est aussi important. Ses œuvres l'accompagneront, certes, mais si nous prions, Dieu est plus miséricordieux. Il est très miséricordieux.
Justement, il est très miséricordieux et c'est ce que nous devons faire tel que tu l'as dit. Il faut qu'on continue pas à prier pour le repos de son âme. Et nous présentons, c'est toute l'émission Club de la Presse hein, qui présente ses condoléances à la famille de la presse et aussi à sa famille biologique. Charles, c'était un ami bien sûr. Alors, on aborde notre premier sujet pour cette émission. C'est le journal Le Changement qui nous donne ce premier sujet. Le journal parle alors de la santé. Et le journal écrit « Santé, fermeture prochaine des structures sanitaires non autorisées. Le professeur Étienne Daré peut-il réussir là où Madame Suzanne Aro avait lamentablement échoué ?» C'est ce que le journal écrit. C'est vrai, et l'homme, je vous ai vu sourire quand je lisais alors le titre. Tout récemment, il y a le professeur Tiendare qui a fait sortir un communiqué pour mettre en garde alors ces structures sanitaires qui ne sont pas dans les règles, que ce serait même d'ailleurs fermé si ces structures ne cherchent pas à se conformer à la règle.
Non, je crois que ça va de soi. Vous avez beaucoup de points de secours, beaucoup de cliniques médicales sauvages, beaucoup de cliniques sauvages plutôt, j'allais dire, qui ne respectent pas les conditions, les clauses, et qui opèrent en toute illégalité. Vous allez voir des gens qui disent des maux de tête. Après, bon, on va chez l'infirmier du coin, et puis après, ça va toujours pas, et on constate la mauvaise nouvelle. Donc, je crois que c'est du rôle du ministère de la Santé de pouvoir normaliser de pouvoir mettre de l'ordre dans ce milieu, parce qu'il y a beaucoup trop de cliniques sauvages, beaucoup trop de points de secours sauvages, où les gens, ils vont juste apprendre à tenir une seringue, ou un seringue, comme on dit un seringue, je crois. Oui, voilà. Voilà, autant pour moi. Les gens apprennent juste.
Tu n'es pas né français. tu n'es pas Molière.
Mais c'est ma langue officielle. Oui. Donc, le temps de tenir le seringue, juste mettre, faire une piqûre, placer un sérum. Vous allez voir, aujourd'hui, quand les gens souffrent de palu, quand on va à l'hôpital, le premier réflexe de la personne, c'est de pouvoir placer un sérum. C'est ça. Mais alors que c'est pas tous les cas de palu qui répondent ou qui réagissent au sérum. Donc, oui, en vous disant, j'ai mis 2-3 boîtes, et puis les gens disent fièrement après que, palu, sérum amène ton emdo. Bon, tu vois, c'est des choses. Alors que, oui, mais quand vous allez dans un hôpital classique ou public, on ne vous prescrit pas directement, on ne vous met pas directement sous perfusion. On fait des analyses, on regarde un peu le taux, on fait beaucoup de choses avant, mais je crois que oui, le ministère de la Santé a raison de pouvoir moraliser ou de normaliser les choses afin que tout le monde soit à l'abri. C'est très important, mais la question du confrère aussi est pertinente, parce que oui, Madame Suzanne Ahou avait essayé par le passé de fermer ces structures qui opéraient dans l'illégalité, mais je crois que la fermeture ou bien ce suivi doit se faire de la pédagogie, de la sensibilisation. C'est très important. Il faut faire de la sensibilisation, de la pédagogie. Parmi ceux qui ont ouvert ces points, il y en a qui sont très bons. Il y a de très bons infirmiers, de très bons docteurs. C'est juste les moyens qui leur manquent. Ils peuvent pas se conformer aux normes, mais il y en a qui sont très bons. Il y en a qui ont quand même des structures qui ne sont pas vraiment aux normes, mais le médecin, il est bon. L'infirmier, il est bon. Dans ce cas de figure, je crois qu'il faut faire de la pédagogie, il faut faire de la sensibilisation. Mais si aujourd'hui, les compatriotes, c'est le manque de moyens qui fait que les gens vont vers ces centres, le manque de moyens. Et l'accueil dans les hôpitaux publics. Vous allez dans un hôpital public, l'accueil même est déplorable. C'est-à-dire, il ne faut qu'un mois. Tu vois, c'est-à-dire, les gens n'ont plus. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de fermer. C'est pas ça la solution. L'essentiel, c'est pas de lancer une chasse aux sorcières. Ça doit s'accompagner d'une sensibilisation, d'une pédagogie, de l'accueil au niveau des hôpitaux publics. Mais vous avez des gens, ils vont à l'hôpital avec un malaise, ou bien vous allez vous transporter quelqu'un qui a fait un accident, vous allez dans un hôpital public. Mais écoutez, mais on vous dit, si on ne vous paye pas le bon, mais le gars, il est ensanglanté, il est à par terre, quoi. S'il doit faire 4 heures de temps, là, il fait 4 heures. Parce que bon, on n'a pas vu de bon, on n'a rien vu. Mais il faut que le ministère aussi réagisse à des cas comme ça. Même si quelqu'un se présente, il est ensanglanté, il est fracturé, ceci, il a un membre, voilà, fracturé, il a fait, voilà. Mais vous le prenez en charge d'abord en attendant de chercher sa famille ou bien quelqu'un qui doit venir au secours. Parce que ce n'est pas comme si la personne est dans un état critique. Vous l'emmenez à l'hôpital, les premiers soins, on doit quand même le prendre en charge d'abord. Et donc, on prie justement qu'on puisse aller aussi vers ce choix de la Côte d'Ivoire où récemment, ils ont décidé que quoi? Que les personnes qui souffrent de traumatisme, c'est-à-dire qui ont fait un accident, juste un accident de circulation, qui se présentent à l'hôpital, la prise en charge est gratuite. Vous comprenez? C'est gratuit. Mais quand on va aller vers des décisions comme ça, vous allez voir que les points de secours sauvages vont fermer d'eux-mêmes. Parce qu'on dit, bon, si vous avez un cas de palu, tout ça, là, vous allez à l'hôpital public, bon, l'État prend en charge. Est-ce que vous êtes sûr que les gens vont se promener encore dans les points des points sauvages, là? Non. Tout le monde va aller dans un hôpital où il sait que c'est gratuit. On y a tout fait. Vous comprenez? Et donc, l'essentiel, ce n'est pas de fermer. Même si on est d'accord qu'on doit normaliser, il faut aussi accompagner cette décision d'une pédagogie, d'une sensibilisation et des décisions quand même fortes pour que les populations soient soulagées.
D'accord. Ambrose, on pourra dire que c'est une bonne décision, mais est-ce que la réaction du ministère n'est pas aussi tardive?
Moi, j'ai mon avis sur le sujet, sur la décision du ministre de la Santé. D'abord, je crois que réglementairement, c'est pas une mauvaise chose, parce que dans un pays qui est régi par les règles et les lois, il y a un encadrement de certaines façons de faire, surtout certains secteurs sensibles, notamment la santé. Mais ce qu'il y a, on m'a dit quelque chose de très important. Moi, j'opte pour la pédagogie et la prospection et la sélection. Vous savez, je donne juste l'exemple du CMS de Ségué. Vous imaginez le nombre de personnes qui affluent vers ce centre-là? Dans le bâtiment même, le bâtiment même n'atteindrait pas 500 mètres carrés ou, je ne sais pas, 250 mètres carrés. Si tu vas là-bas un matin, en période de paludisme, c'est-à-dire quand je parle de période de paludisme, c'est en période de pluie, où il y a déjà de l'eau, il y a des herbes vertes, vous allez voir la queue jusqu'à 200 personnes. Mais s'il y a parmi ces 200 personnes-là, quelqu'un dans le cas est critique, il va tomber, il va mourir. Ça m'est arrivé là-bas. Maintenant, il y en a qui sont des structures privées qui sauvent des vies dans ces quartiers-là. Quand je parle de quartier, il y a Kato à Voimé. Il y a à Kato Viepé.
Oui.
Il y a Kato Viepé, à Kato Demé, qui est derrière le CMS, jusqu'à 5-6 kilomètres. À côté de Kato Demé, il y a Clémé. C'est un grand quartier qui lorgne Sangela. Tu reviens maintenant au carrefour CB, au niveau de la pharmacie, à la douane. Tu tombes sur CB même. Tu rentres dans CB Gant, avant de lorgner vers Logoté. Mon frère, il y a plus de 100 000 personnes qui passent. Et l'homme est témoin.
Oui, je suis dans la zone.
Il y a plus de 100 000 personnes qui quittent la zone-là de 7h à 19h. Je ne vois rien. C'est pourquoi, quand on a parlé de route-là, et que madame la ministre qui était en charge des constructions disait que c'est une route de frontière, je dis non, ce n'est pas une route de frontière. Ce n'est pas une route de frontière. La route de frontière, c'est celle de Koyakopé, par exemple. Là-bas, c'est une route qui, malheureusement, tombe sur le côté frontière. Alors qu'il y a des cantons qui sont là. Il y a des villages qui sont nombreux là. Revenons au sujet. Ce qui fait que, il y en a qui ont fait des formations dans les universités publiques, mais qui n'ont pas été recrutés par le service public, mais qui ont dû créer des unités de soins périphériques, privées, et qui sauvent des vies. Il y a même bien à côté un immédiat qui transporte un des amis souvent pour aller au boulot, qu'il a été assailli par un palu. Elle m'a monté même la dame. Moi, je ne suis jamais allé chez la dame. Et tout le monde parle de la dame dans le quartier. Donc personne ne va plus au CMS Ségué. Parce que le nombre déjà, quand même, tu vas retourner. Donc c'est à toi que tu vas te faire traiter ou c'est à Ido Gomé. Non. Moi, je connais une dame qui a fait sa formation dans les unités publiques. Elle aurait à son actif plus de 5000 enfants qui sont nés. Elle est sage-femme. Elle fait la médecine générale aussi, la petite médecine générale, depuis les années 2000. On a fait ensemble le CG. Et je ne te dis pas, il y en a même qui sont nés avec. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont nés avec. C'est un don, quoi. Et donc, ces cas-là, elle est là depuis, elle a même dû construire une clinique. Elle a étendu son truc-là qui travaille. De temps en temps, elle est souvent dérangée, pas forcément par les gens du ministère, mais par des unités concurrentes qui vont signaler au ministère que elle fait. Donc, c'est des gens qui sont sous couvert des ONG. C'est une ONG,
oui.
Mais qui opère. Parce que pour pouvoir, pas forcément se soustraire de la réglementation, mais pour pouvoir continuer par aider les gens. La zone à Plaou dans laquelle je ne te dis pas ce qui se passe souvent. Elle-même enfante des gens, paye même, c'est un problème, pendant des mois, après les gens viennent payer. Pour dire que ça ne va pas se passer à tout coin. Encore moins dans un CMS à Ido Gomé. Donc aujourd'hui, je dis, rejoignez l'homme que je suis d'accord pour qu'on puisse assainir le milieu. Mais qu'on le fasse de façon pédagogique et sélectionner ceux qui sont bons parmi ces privés-là. Parce que tout le monde ne veut pas se converger vers les unités publiques.
D'accord. Oui, mais l'homme, c'est vrai que vous avez touché le point, alors concernant surtout le fait qu'il y a des structures sanitaires, surtout de l'État public, bien sûr, hein, qui, déjà, il y a l'accueil qui, qui est déplorable, oui. Et tout. Mais au-delà même d'ailleurs de l'accueil, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de matériel. Et non seulement il n'y a pas de matériel, mais la proximité même d'ailleurs de ces centres par rapport à la position de l'individu, cela crée aussi des problèmes.
Oui, j'ai souvent dit, je vais me répéter pour ceux qui nous suivent souvent les jeudis, que moi, je regrette la suppression du portefeuille de la prospective dans le gouvernement. Parce que la prospective vous permet justement de savoir à quelle vitesse la ville se développe, à quelle vitesse la démographie est en train de faire un boom. Et sans prospective, vous ne pouvez pas justement savoir si d'ici 2050, le nombre de populations qu'on peut avoir à Adetikopé, le nombre de populations qu'on peut avoir à Agouet. Aujourd'hui, on a été toujours surpris du développement d'Agouet. Agouet qui était, bon, canton, maintenant c'est une grande préfecture, parce qu'il y a plusieurs cantons aujourd'hui à Agouet. Agouet vaste, Adidogomé vaste. Vous allez vous perdre. Et donc, quand c'est comme ça, où l'État même est surpris du développement des villes, est surpris du développement des quartiers, quand c'est comme ça, c'est difficile d'adapter les politiques de développement. Parce que, regardez, l'État planifie que dans 5 ans, je vais construire un grand hôpital. C'est un exemple, hein, un grand hôpital à Adidogomé. Dans 5 ans, je vais construire un grand hôpital à Agouet. Dans 10 ans, je vais construire un grand hôpital à, je sais pas, à Bay. Ou non, il y a déjà un hôpital à Bay. Je vais prendre la Décicopé. À Ségbé, par exemple, un grand hôpital au lieu d'un CMS. Mais l'État se rend compte que en 2 ou 3 ans, mais la population, la zone s'est tellement développée que, ben, la prévision qu'on faisait sur 5 ans, on est obligé de ramener ça à 2 ans. Mais l'État n'a pas les ressources. On fait quoi? C'est ça. Donc, c'est la prospective qui va vous permettre, justement, de pouvoir anticiper. Parce que si on regarde la façon dont les populations sont en train de s'installer dans la zone, on se dit qu'attends, attention, hein, on a dit dans 5 ans, on va mettre un truc ici, mais on doit réviser notre truc à la baisse en ramenant l'échéance à 2-3 ans. Donc, en 2-3 ans, on doit pouvoir trouver des ressources pour mettre en place un truc qui doit contenir ces gens. Cameroise l'a dit, le CMS de Ségbé est débordé. Le CMS d'Adidogomé est débordé. Ils n'ont même pas de lit. Mais quand vous allez à l'hôpital, le plus grand hôpital du pays, c'est le CHU Sylvanus Olympio. Mais vous voyez comment le personnel est débordé. Vous voyez comment, c'est vrai qu'il y a des efforts qui se font, il y a la contractualisation, on a mis des lits, on a mis ceci, cela. Il y a des bonnes volontés, des entreprises. Qui a équipé. Voilà, le gouvernement a injecté quelques équipements. Et vous avez, mais ça ne suffit toujours pas. Vous voyez, les flux qu'il y a là-bas, c'est des flux qui sont grands, importants. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faut justement que, dans une certaine mesure, que le secteur de la santé, qui est un domaine vaste et particulier pour l'État, pour le gouvernement, puisse justement, on puisse accélérer la construction des centres. C'est vrai, comme vous l'avez dit, à l'intérieur du pays, les gens ne sont pas proches des unités de soins périphériques, les USP, comme on les appelle. Et quand vous regardez même la nature de ces USP-là, le bâtiment même, vous avez pitié. Vous comprenez? Donc, c'est quand même un grand défi. Vers la santé au Togo, c'est un grand défi. Il faut que l'État fasse plus d'efforts. C'est vrai qu'on a fait des efforts ces temps-ci avec les équipements qu'on a injectés dans certaines structures sanitaires. On a demandé au personnel ou aux médecins de pouvoir prendre soin de ces équipements. Mais il faut maintenant construire des centres de santé. Il faut en construire. Les équipements, oui, c'est vrai, on en a fait, etc. Mais il faut maintenant construire davantage de centres de santé, d'hôpitaux. Il faut en construire. Un hôpital comme le CHU Sylvanus Olympio, chaque région doit pouvoir en disposer. Aujourd'hui, on a quoi? On a un hôpital à Dapan, on a un hôpital à Kara, on a un hôpital à Sokodé, on a un hôpital à Tapamé, mais c'est les CHP. Vous comprenez? C'est des centres hospitaliers préfectoraux. Je ne sais pas si c'est CHR, il y a des CHR aussi. Vous comprenez? Mais il faut qu'on puisse aller à un niveau CHU dans toutes les régions. On a un CHU dans toutes les régions. Là, ça va. On sait que, bah, ok, quand on quitte, comment l'appelle-t-on? Dapan, on peut arriver directement sur le CHU, là, dans telle localité. Si on quitte telle zone, on peut aller directement au CHU et renforcer le matériel ou les équipements des CMS ou des USP. Parce que, bon, les USP, c'est vrai que c'est au niveau rural, mais il faut quand même qu'au niveau rural, on puisse aussi augmenter le stand-in. Pour que, oui, parce que, bon, au niveau, on dit USP, mais quand vous allez dans ces USP, il faut voir aussi le matériel avec lequel ils soignent les gens. Et donc, plus de moyens, plus d'ambulances, plus d'équipements, pour que, justement, oui, on puisse faire. Mais, je l'ai dit tantôt, la sensibilisation, la pédagogie compte, discuter avec l'Ordre national des médecins, discuter avec l'Ordre national des pharmaciens, discuter aussi avec toutes ces personnes qui vont justement dans le sens de la marche pour faire de la pédagogie, de la sensibilisation, voir ce que ça pèse au budget de l'État. Par exemple, si on dit, bon, ok, à partir d'aujourd'hui, on est en train de prendre en charge gratuitement le paludisme, C'est un exemple, là. C'est, si l'État dit, je prends en charge gratuitement le palu, les cas de palu dans tous les hôpitaux publics, qu'est-ce que ça pèse au niveau du budget de l'État? C'est un grand soulagement pour la population, surtout que le paludisme est le premier cas de décès au niveau des maladies que vous connaissez. Donc, oui, on veut bien aller dans cela, mais il faut que, aussi derrière, que le gouvernement fasse aussi des annonces ou prenne des décisions qui aussi, voilà, peuvent soulager davantage les populations et qui vont couper court juste aux cliniques sauvages.
D'accord. C'est justement, à ces manquements auxquels qui doit venir de l'État que Madame Aroua a dû démissionner face à la chose. Vous savez, il est facile de faire pression sur le ministre pour pouvoir fermer les unités privées ou les cliniques privées. Mais il est aussi opérant de voir ceux qui sont dans les services publics, les médecins et autres, l'État lui-même, d'investir dans la question sanitaire, dans la question des soins au profit du citoyen.
Mais est-ce que tout ne serait pas vraiment une vision structurée telle que l'homme l'a dit?
Tant que, oui, en réalité. Il a dit, des gens ont fait des projections sur 10 ans, 5 ans, alors qu'ils ont été rattrapés par 2 ans. Dans deux ans, comme nous on est à Nicolas-Poy ici, les pigeons passaient dans l'enceinte de Tocoin. Il a dit que tu peux marcher, les gens trottinent avec les peuples roux là, et comment on appelle les
tutorelles.
Les tutorelles. Mais aujourd'hui, même Tocoin n'est pas rempli. Hein. Elle est juste à C2 de quoi. Vous allez voir ce qui se passe réellement. Et tant que, moi je l'ai déjà dit dans l'une de mes parutions, qu'il faut construire un hôpital, et l'on me l'a dit tout à l'heure, dans certains, parce que beaucoup se sont déversés, beaucoup ont quitté Nekonakwe, Aïdogome, Koyakope, pour se déverser dans les quartiers périphériques. Ceux qui ont vendu leur maison ici, ceux qui, dont les parents sont décédés, ceux qui veulent vivre dans le nouveau quartier, parce que la terre est moins chère là-bas, ils ont quitté ici pour aller habiter là-bas. Ils sont nombreux. Maintenant, il y a aussi de nouveaux jeunes qui sont de la classe moyenne qui ont cherché des terres là-bas. Et là, Adjidogomi est rempli. Zangira, Zopumae et Zosim et tout ça là, c'est rempli. Quand tu vas à Gwe, il a dit, quand tu vas à Gwe, oh, tu vas dire que ça c'est à Gwe ça, autant où, quand nous on suivait, peut-être c'est à cause d'Aboka que moi je connais la zone à Gwe, hein. C'est vrai que nous, on passe chez moi, aller chez moi, je passe à ce pas des gens qui sont là, pas là pour aller là-bas. Mais je me dis que c'est quand on a Aboka retracé les voies d'Aguela. Là-bas, c'est des chendons, c'est la brousse, c'est des constructions de culte vaudou partout. Mais je dis que Agué, jusqu'à Lebasito, c'est une grande agglomération. Tout comme, c'est-à-dire comparable à ce que nous vivons à Sagbado, Segbe, Segbigan, à Kato, et Clémé, tout ça là. Pour dire que ces zones-là, jusqu'à Baguida, ont besoin d'hôpitaux. Mais est-ce que construire la moitié de ce qu'il y a à Tocoin dans ces zones-là, pour un peu désengorger Tocoin. Tocoin, ça ne marche même pas. Ça marche à peine. Il y en a qui travaillent bien, il y a des médecins, même qui ont des cliniques, mais qui opèrent bien dans les hôpitaux de Tocoin et sur ce campus.
Oui.
Ça, il faut le reconnaître. Il y a aussi des sages-femmes qui sont très accueillants. Il y a des infirmiers, quand vous venez, qui sont des jeunes, mais qui sont. Il y en a des chirurgiens qui sont là. Mais il y en a aussi qui ne pensent qu'à eux, excusez-moi. D'ailleurs, ils ne pensent qu'à eux tout simplement parce qu'il suffit qu'on vous annonce que vous avez un cancer. Ils sont prêts à te diriger vers leur clinique. 1 million, 2 millions, 3 millions, sachant bien que vous allez mourir. Et donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut que l'État arrive d'abord. C'est vrai, il faut dénicher ceux qui sont pires parmi ces cliniques privées-là. Ça, il faut les élaguer, il faut les fermer. Mais il y en a qui sont bons dans les quartiers. Ça, il faut reconnaître. Il faut d'abord que le ministère de la Santé fasse un sondage. Un sondage dans les quartiers. Repérer là où se trouve cette clinique privée. Maintenant, faire le sondage auprès des populations qui sont autour de cette clinique-là. Bon, est-ce que vous allez ici? Comment ça se passe? Il suffit que les gens disent, sur 10, que 8 disent que, ah, ils travaillent bien. Ah, ils sont bons. Sans eux, on ne peut pas. Non, moi, par exemple, qui vous parle ici, je ne sais pas si je suis une fois allé prendre ce robe à Tocoin. Encore moins à Segbe ou à Aïdogome. Pourtant, je suis là, ça fait plus de 30 ans, 35 ans. C'est juste, la dame là, dont je parle là, depuis, c'est là quand moi je suis malade, par lui ou tout ça, le taux même peut aller très élevé. Moi, je fais toujours le GE pour savoir le si le taux est élevé ou pas. Avant de prendre le sérum, d'abord les injections. D'accord. J'ai peur des injections.
Oui, oui.
Je prends d'abord, je commence toujours par les comprimés.
Voilà.
Donc, il faut toujours commencer par les comprimés.
Toujours.
Mais avant de prendre un seul comprimé, il faut faire le GE. Obligatoire. Je fais le GE avant de commencer par prendre le comprimé. Et si je pense que le comprimé a aidé à guérir la maladie, ça veut dire que le taux du paludisme est de moins 500. Le taux de paludisme peut être de moins 500. Mais quand ça dépasse 500 jusqu'à 1000, là tu es obligé de passer par les injections, des comprimés. Et si ça dépasse encore ça, tu dois faire le sérum.
D'accord.
Et donc, ça là, le ministère doit passer dans les quartiers pour dénicher ceux qui sont les cliniques privées, qui ne sont pas en règle, mais qui sont bons pour les régulariser. Mmh. Maintenant, il y en a qui sont aussi pleins, qu'il faut élaguer, qu'il faut fermer, parce que là, il y a du doute. Parce que on ne me dira pas qu'il y a de grands hôpitaux de référence dans ce pays, là où les gens vont et meurent aussi, hein. Je ne peux pas citer de nom.
D'accord. Ok. Elom, nous allons aborder notre sujet. Parlons de ce sujet de corruption. Et, c'est vrai, il y a Ambroise qui parlait même d'ailleurs de cette rencontre avec la COP hier. Et il y a le journal. Et le changement qui est revenu sur cette question, c'est vrai, quand on parle même d'ailleurs du domaine de la santé, ou le secteur de la santé n'est pas, et ce n'est pas un domaine qui est exempt alors de la corruption. On en parlait même hier. Il y a le journal, le changement qui est revenu sur le sujet. Le journal écrit rapport sur la gestion des marchés publics, plusieurs cas de corruption dénoncés. À quand la traduction des mises en cause devant les tribunaux? C'est ce que le journal écrit. Alors, c'est vrai qu'au-delà de tout, quand on dénonce aujourd'hui des cas de corruption, c'est vrai, c'est une réalité chez nous, mais au-delà de cela, beaucoup de gens se disent, mais il faudrait quand même qu'on traduise les mises en cause devant les tribunaux pour qu'on sache exactement ce qu'ils ont fait et aussi pour les dissuader.
Oui, non, c'est important. C'est important d'en parler. Et vous savez que les marchés publics, en général, sont entourés d'une certaine... voilà, tout ce que vous savez. Il y a toujours de ces micmacs là au niveau des marchés publics. Il y a toujours des marchés qui sont entourés d'irrégularités. Il y a des marchés publics qui sont clean. Le processus est transparent jusqu'au bout. Mais souvent, vous savez, je ne sais pas si vous avez fait, vous regardez un peu l'écosystème ici. Les gens se plaignent que c'est les mêmes qui prennent les marchés. Les marchés publics ne tournent qu'entre un groupe de personnes. Les autres ne viennent juste que gonfler le nombre des prestations. C'est-à-dire, vous soumissionnez, des soumissionnaires, pour qu'on puisse délibérer. C'est-à-dire, tout le monde se plaint. Même le quota réservé annoncé par le chef de l'État aux jeunes femmes et aux jeunes et aux femmes entrepreneurs.
20%.
20%. Mais écoutez, on vous dit que oui, les jeunes, ils n'ont pas la cote, oui, pour pouvoir lever des fonds pour faire tel marché. Et on vous dit que oui, vous n'avez pas de surface financière pour faire ceci, pour faire cela. Et les marchés ne tournent qu'entre un groupe de personnes, malheureusement. Et quand c'est comme ça, vous comprenez, vous devez savoir pourquoi ça se passe ainsi. Et il y a l'un des cas qui a été relevé par l'ARCOP. Donc c'est déplorable, c'est ce qui est déplorable. Parce que les gens ont monté des structures, des gens ont des entreprises. Des gens ont leur société, mais ils n'ont pas un seul marché depuis qu'ils ont créé la société. Même pas un seul. Après, quand ils ont les marchés, il y en a qui ont des marchés, mais trouver du financement, c'est difficile. Vous allez dans telle banque, on vous demande ceci, on vous demande cela, on vous demande ceci, on vous demande cela, on vous dit oui, il faut faire ceci, il faut faire cela.
Et ça constitue des obstacles.
Oui. Ou soit on vous dit, vous n'avez pas l'expérience dans tel domaine. Pourquoi vous avez ce marché? Mais c'est pas le problème de la banque. Mais vous êtes l'attributaire du marché. Mais le client, lui, vous dit, moi, je trouve que vous avez les compétences. Maintenant, la banque vous dit, vous n'avez pas fait vos preuves. Pourquoi vous voulez tel financement? Moi, je comprends légalement, parce que pour lever des fonds, il faut un certain nombre de garanties. D'accord? Mais c'est trop demandé pour des PME. Aujourd'hui, on est dans un écosystème où on a quoi? On a la majorité de structures au Togo, c'est des PME. C'est des PME-PMI. L'écosystème est composé comme cela. Il y a des jeunes qui se battent, il y a des gens qui ont monté leur structure, mais à 70%, c'est des PME-PMI. Mais pour que les PME-PMI trouvent des marchés, c'est compliqué. C'est très compliqué au Togo. Les gens ont des marchés, mais en réalité, ils n'ont pas de capitaux. Ils n'ont pas de financement. Pour lever un financement dans une banque, c'est la catastrophe. On vous demande tout juste pour vous décourager. On dirait qu'on veut vous décourager, quoi. Que bon, voilà, laissez tomber, quoi. C'est pas votre tour. Et quand c'est comme ça, il va falloir que l'État, l'ARCOP, tout le monde puisse accompagner les PME. Parce que, oui, c'est bien vrai, la corruption entoure les marchés publics, on dénonce, il faut traduire les gens devant les tribunaux, mais il faut entourer aussi la commande publique, la commande des marchés, d'une certaine... il faut accompagner justement les PME pour qu'elles puissent aussi un jour rêver. Parce que, vous savez, les gens, il y a des gens qui ne rêvent plus au Togo. Parce que justement, ils ont leur structure depuis longtemps. Ils n'ont pas un seul marché, ils n'ont pas un petit marché. Alors que les charges s'accumulent. Des gens fermaient boutique parce que, bah écoutez, il a des charges, mais les marchés ne suivent pas. On fait quoi dans ce cas? Donc, il y a de ces genres, de ces cas de figure. Moi, je dis toujours, discutons. Faisons preuve de pédagogie et de sensibilisation. Les problèmes dont nous souffrons, dans chaque secteur, les maux dont nous souffrons, il faut juste appliquer des solutions, non pas pour lancer une chasse aux sorcières, mais pour juste accompagner, pousser un peu, décréter juste un truc. Vous allez voir que les problèmes vont se régler d'eux-mêmes. Si on décide aujourd'hui de rendre beaucoup plus souple au niveau des banques, l'accès au financement des PME, c'est vrai qu'il y a trop d'effets d'annonce aussi au niveau des banques. Trop d'effets d'annonce, trop de publicité qui, pour la plupart, ne tiennent pas. On vous dit, oui, on accompagne telle PME. On vous dit, on a signé un accord avec telle 10 PME, avec tel réseau de femmes, avec tel réseau d'hommes d'affaires, tout ça. Là. Au fond, quand vous cherchez, vous avez les projets, on ne finance pas. Je suis franc. On n'est pas en train de raconter nos vies. Donc, il y a trop d'effets d'annonce, trop de publicité mensongère, même au niveau de ces banques-là. Conséquence, on miroite un peu, on miroite un certain mirage à ces jeunes entrepreneurs qui se disent que dans telle banque, on a lu la dernière fois qu'ils accompagnent, mais finalement quand vous déposez votre dossier, vous allez voir que vous là, on ne va jamais vous accompagner. Et vous pouvez tout fournir, on trouvera toujours la petite bête. Donc c'est important de pouvoir s'asseoir pour se dire les vérités, pour dire on accompagne les PME, pour qu'ils puissent eux aussi avoir accès au marché public. Aujourd'hui, les marchés publics sont inaccessibles à beaucoup de jeunes entrepreneurs. Ils se débrouillent dans les marchés connexes, dans les structures internationales, dans de petites boîtes. Et bon, voilà, on guette un peu les marchés qui sont dans Togo Press, tout sauf les marchés publics, parce qu'ils se disent que ben, c'est régazé à un groupe de personnes.
D'accord. Alors, en bas, c'est vrai que le chef de l'État l'avait annoncé que pour pratiquement 20% des marchés publics devaient être attribués aux femmes et aussi aux jeunes entrepreneurs. Mais finalement, allez, on ne retrouve pas cela en tant que tel. Mais quand on annonce, il faut un suivi.
Oui, il a dit que c'est souvent des effets d'annonce. Vous savez... Si vous êtes...
J'ai dit les banques.
Ah oui, oui, pour les banques.
Oui.
Parce que c'est les banques qui doivent accompagner le discours là. Mais avant que les banques l'accompagnent, c'est le ministère des Finances et autres qui doivent être mis en jeu. Parce que quand vous avez un plan pour sauver la jeunesse et les femmes, c'est des bonnes idées. Mais il va falloir mettre les outils qui puissent réellement suivre la décision que vous avez prise. Mais quand ce n'est pas ça, vous devenez démagogue. Et c'est ce qui se passe. Puisqu'on parle de la corruption, ça ce n'est qu'un volet que l'homme a lorgné, parlant des banques qui, ma foi, dans 20-25 ans vont disparaître. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les crypto-monnaies qui vont les faire disparaître. Le classicisme va disparaître au profit du virtuel. Ça a commencé dans les administrations avec la digitalisation. De la même manière, la monnaie aussi se digitalise. Je ne suis pas content pour ça. Mais tout le monde peut devenir riche maintenant.
Mais ça s'impose à nous.
Pas justement un groupe de personnes. Maintenant, parlant de cette histoire de corruption, je l'ai dit, la COP a fait un effort pour dénicher les irrégularités constatées dans la passion des marchés publics, dans la commande publique. Et il y a tellement de soucis dans le rendu de tout ce qui est service public, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau des institutions elles-mêmes, que ce soit au niveau des départements publics, des collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies, les communes, et même dans certaines structures privées. Et quand on parle d'irrégularité, j'ai lorgné un peu dans ma première prise de parole, que c'est ça parle souvent des corrupteurs. Il y a l'autorité contractante qui est là. Il y a l'entreprise qui veut soumissionner à un marché. Mais celui qui surdoit, c'est l'entreprise. C'est le patron de l'entreprise. J'ai même donné un exemple ici. J'en ai publié dans The Guardian. Le placement des épis au niveau de la ville d'Anero pour empêcher l'érosion côtière.
Le long du littoral,
c'est,
vous
c'est un marché. Il y avait eu un marché, ça fait 3 ou 4 ans. Les Hollandais étaient là, les Chinois étaient là. Il semble qu'il y a aussi des Français ou des Belges, quelque chose comme ça. Ce dossier, je l'ai suivi. Mais il y a eu la corruption passée par là. Quels sont les maîtres, ceux qui sont maîtres dans la gestion des eaux liées aux habitations? C'est les Hollandais. Et l'on ne va pas me démentir. C'est les Pays-Bas. Les Netherlands, les gens, certains parlent de Netherlands. C'est les Hollandais. C'est vrai que ce n'est pas automatiquement qu'on peut attribuer un marché à un Hollandais qui atterrit ici. Mais celui qui est belge ou français, qui arrive et donne 200 millions à la personne chargée des marchés publics, c'est vrai que ce n'est pas lui seul qui décide de ce marché-là. Mais s'il décide, c'est la commission qui doit gérer ce marché-là, de dispasser les 200 millions, il garde 100 millions, il dispasse les autres, pour attribuer le marché à une autre personne. Ça peut arriver. C'est là où se trouve le problème. L'homme est perfectible et en même temps corruptible. Mais quels sont les outils qu'on met pour décourager ces genres de pratiques? Il faut des outils. Parce que les marchés publics sont un nid important, c'est un grand nid de corruption. Hein? Que ce soit au niveau de nos collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies, que ce soit au niveau de nos ministères, c'est-à-dire que le comptable et l'ordonnateur des fonds, c'est-à-dire que le DG, au niveau des services publics, vous allez même dans les services parapublics, c'est-à-dire que les sociétés parapubliques, la CET, la régie, et bon, je ne vais plus parler de Togo-Sep, tout ça, c'est tombé dans la scarcelle des privés. Mais c'est les régies autonomes, c'est les gens qui se gèrent, mais ça appartient à l'État. Ils ont une gestion autonome. Il doit y avoir un audit qui se fasse dans ces zones-là pour savoir comment ça se fait. Le marché public qui se passe, on passe le marché comment? Il y a plein d'exemples qu'on peut donner, mais on risque de griffonner les gens. Mais nous, disons simplement que l'ARCOP doit aller jusqu'au bout de ce qu'il fait. Je n'ai pas encore terminé.
Oui, rapidement, oui, on va, puisqu'on va avancer.
Et le président du RAPLUSIA, lui, je l'ai dit hier, que je crois qu'il est en train de faire un effort, parce qu'on a sorti des noms, des gens qui ont détourné des fonds. Ils ont quand même commencé par rembourser. Le Guardian s'est posé la question, à quand la publication de ces noms-là, ce qui a été détourné, combien a été remboursé et ce qui reste. Hier, il nous a répondu en disant que eux, les prérogatives qui leur sont données par la loi n'atteignent pas ce niveau-là. Il appartient au procureur. Donc le procureur a tellement de dossiers à son niveau concernant la corruption, les détournements de fonds, qu'il doit déballer pour décourager les gens. Parce qu'en ne le faisant pas, l'impunité va régner en maître. Et quand l'impunité financière règne en maître, bonjour les dégâts.
D'accord. Ok, merci beaucoup Ambroise. On va avancer, puisque notre temps avance aussi. On va parler politique. Politique, on sait, je l'annonçais même d'ailleurs dans mes mots introductifs, on sait déjà que le 2 février 2025, il y a les élections sénatoriales qui auront lieu au Togo, la première même d'ailleurs du genre. Et quand cela a été annoncé, déjà la campagne, c'est du 17 janvier au 31. Alors, Elom, c'est vrai que quand cela a été annoncé, il y a des partis politiques où l'opposition a réagi. Par rapport même à cela, il y a Maître Tassona Traoré qui déjà fait une proposition au chef de l'État et demande que un tiers que le chef de l'État devait nommer parmi les membres alors du Sénat, que ça vienne alors plutôt alors de l'opposition politique, puisque pour que ça donne plus de crédibilité à cette institution. Au même moment, quand on prend un regroupement de partis politiques tels que la DMP dit qu'elle ne va pas s'associer plutôt à ces sénatoriales. Alors, est-ce que vous arrivez à comprendre quand même l'opposition sur ce plan?
Non, c'est dans la droite ligne de la ligne de la DMP. Vous savez, par rapport à la constitution de la Ve République, ils ne sont pas en phase, ils ne sont pas vraiment alignés sur les termes. Et au niveau justement aussi de la proposition de Médiasson à Traoré, moi j'ai trouvé ça un tout petit peu surprenant, parce que qu'on propose au chef de l'État de nommer le tiers des sénateurs dans l'opposition, et que bon, puisque les conseils régionaux, les conseils municipaux qui vont élire les sénateurs, c'est-à-dire les deux tiers, ils viennent pour la plupart du parti Unir. Donc bon, pour une certaine vitalité, une certaine légitimité, le président du MCD propose justement que le chef de l'État nomme le tiers de ses sénateurs dans l'opposition. Bon, c'est pour l'instant c'est une proposition. C'est un homme politique, il est libre de faire des propositions pour participer à la vie politique, mais c'est quand même, ça fait sourire, vous comprenez, ça fait sourire parce que on dirait depuis un moment, on dirait que bon l'opposition fait des propositions qui ou bien des partis de l'opposition font des propositions qui vont dans le sens d'un certain plaidoyer vis-à-vis de ce que vous savez. Mais au niveau de la DMP, ce n'est pas surprenant, c'est la ligne de la dynamique. Oui, ils sont pas d'accord avec la Ve République, et ce qui serait surprenant, c'est de les voir accepter participer à cette élection ou à ces élections sénatoriales. Et donc, ils ont dit qu'ils ne sont pas du tout en phase et c'est leur droit le plus absolu. Donc, on va voir comment ça va se passer. De toutes les façons, comme je l'ai dit tantôt, c'est les conseils régionaux et les conseils municipaux qui vont élire les deux tiers. Et le tiers restant, c'est le chef de l'État qui va les nommer.
D'accord. Oui, mais alors, déjà, quand on voit cette proposition ou on écoute cette proposition alors de Maître Tchassona, et finalement, est-ce que c'est un aveu alors d'échec?
Avant de revenir même à la proposition de M. Tchassona, moi j'ai peur pour le Togo parce que on ne peut pas avoir un président venu d'un parti politique, le président de l'Assemblée venu du même parti politique, on ne peut pas avoir le Parlement acquis totalement à ce parti politique, ça fait trois. On ne peut pas avoir le Sénat aussi acquis à la... Quelles sont les forces d'équilibre démocratique dans le pays?
Oh, c'est un régime parlementaire.
Je ne parle même pas de... C'est-à-dire que c'est ça même qui choque ceux qui sont des juristes.
Quand vous êtes président et que vous n'avez pas l'Assemblée nationale qui est majoritaire pour votre parti, vous ne pouvez pas gouverner. C'est ce qui s'est passé au Sénégal.
Faut pas comparer le Togo au Sénégal.
Je dis si vous êtes président de la République.
Non, je vais terminer ma logique.
D'accord, allez-y.
Donc, faut pas me mélanger.
Personne ne te mélange.
Quand on parle du Togo, faut pas parler du Sénégal. Quand on compare le Togo au Sénégal.
Personne ne compare, Ambroise.
Oui, faut même pas se donner le nom. Est-ce que je peux parler au moins? Il a déjà parlé là.
Vas-y.
Je dis, j'ai peur pour ce pays. Parce que nous ne sommes pas en train de faire de la démocratie. Hein. Nous sommes dans une monarchie habillée. Hein. J'ai parlé de l'Assemblée, de la présidence, de la primature. Tout ça là, c'est parti uni. Le Sénat, les conseils régionaux, certains ne sont même pas allés là-bas, la ANC et autres, la DMP ne va pas aller. Ça veut dire que c'est toujours les mêmes personnes qui iront pour voter qui? Pour voter encore pour ceux qui seront majoritaires venir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sautent aux yeux, quoi. Ce n'est pas normal qu'on soit dans un pays où le pouvoir, tout le pouvoir se concentre dans la main d'un seul camp. Et le reste, le peuple. On ne regarde pas le peuple qui vote. La présidence, il n'y aura plus de présidence présidentielle. Alors que c'est le seul pouvoir, à part législatif, qui sont donnés aux citoyens, au peuple de voter. Maintenant, quand on parle de régime parlementaire, je ne vais pas encore faire des coups de régime parlementaire ici. C'est un peu mon domaine. Ce qui se passe en Israël, ce n'est pas ça qui se passe ici. Hein. Ce qui se passe en Israël, en Allemagne, en Italie, ce n'est pas ça. Hein. Ici, là. Le président même qui sera élu là. D'abord les gouverneurs.
Mais il a dit qu'on va l'adapter à notre réalité.
Les gouverneurs dont on parle, en RDC, ils sont élus. Hein. Ils ne sont pas nommés. Allez vérifier. Quand on parle du Sénégal, au Sénégal, c'est la démocratie. D'ailleurs, ne vous comparez même pas au pied du Sénégal. Et eux, ils sont, depuis Senghor, ils sont encore mis le président. Senghor, Diouf, Ouad, Sall, et maintenant Sonko. Cinq présidents.
Dis-moi le faille plutôt.
5 présidents. L'alternance est constante au Sénégal. Au Togo, c'est pas ça. Nous, on n'a connu que 2. Depuis 60 ans. Je dépose ça. Pour parler du Sénat, le Sénat est une institution budgétive. On n'en a pas besoin au Togo. Le Sénégal l'a essayé, il l'a dissous. Le Sénat n'existe plus au Sénégal. C'est ça, c'est la démocratie, ça.
Mais est-ce que nous n'en avons pas fait aussi l'espace?
On n'a pas besoin de ça. D'abord, qui va payer les conseils régionaux dont on parle? Les présidents de région, les gouverneurs. Ça, c'est le fonds du citoyen. Ça, c'est l'argent public. Maintenant, les sénateurs, on va encore les payer. Le pire dans tout ça, c'est que le fonds d'assimilation va nommer un tiers. Alors qu'il a déjà tout acquis à sa cause. Ce n'est pas normal, là. Et maintenant, ça, c'est Traoré, pour revenir à lui. Il a donné fonds causés sur une plateforme et les boutades ont commencé par sortir par rapport à ça. Moi, je n'ai rien contre lui. D'ailleurs, je le considère comme un grand frère, un ami. Je peux le comprendre. Mais la boutade, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vais juste dire la boutade, ce qui a été dit. Que les gens ont fait l'opposition, ça fait 33 ans. Ils sont fatigués. Donc, les cheveux sont devenus blancs. Et donc, la dernière des chances, ils vont aller manger. C'est ce que... C'est pas si... L'homme aussi a lu. Il a lu ça. Donc, c'est pour te dire que... Ça, on a peut-être raison. Parce que, d'abord, lui, il ne va pas dire qu'il a gagné, il a de l'argent, il est notaire. Mais, la chambre du Sénat, le Sénat, la chambre haute, elle est réservée à un certain nombre de personnes. C'est une chambre de récompense aussi, parce que ceux qui se sont dévoués dans le parti, au pouvoir, c'est ceux-là que le président nomme. Il est aussi... Il a la souveraineté de nommer qui il veut aussi. Hein. Comme Sassona le dit, il peut le nommer. Mais pourquoi Sassona ne dit pas qu'on le mise plutôt que d'être nommé? Ça veut dire qu'il sait déjà d'avance qu'il ne sera pas nommé. Il ne peut jamais être élu. Ça, c'est défaitiste pour un opposant. Encore faudra-t-il qu'il soit toujours opposant. Et donc, moi, je n'ai pas...
D'accord.
Je n'ai rien contre, mais je n'ai pas aimé... Au lieu de dire d'aller faire une bataille pour être élu au Sénat, tant mieux que nous, on a dépassé cette histoire du Sénat-là, budgétivore, et une chambre de remplissage, je me dis que, au Togo, avec les fonds que nous avons, chaque fois, avec la levée des fonds à l'UEMOA, la levée des fonds, les prêts à l'UEMOA, les prêts à la Banque mondiale, FMI, on n'a pas besoin du Sénat actuellement.
D'accord,
ça, c'est pour pouvoir faire un habillage institutionnel pour couronner le tout.
Mais
vous allez voir d'ici le mois de mai ce qui va se passer.
Mais merci.
Ils seront au mur.
Merci, Ambrasse. Puisque notre temps est avancé, nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs sur nos deux numéros. C'est le 90 86 35 35 ou 91 36 63 75. Mais vous pouvez aussi réagir sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
13.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je vais bien, chef.
C'est Monsieur Nyamavo.
Oui, chef.
Allez-y.
Oui, si le journaliste qui m'a dit, appelle sur ça, s'il te plaît. Concernant quand il s'agissait des écoles privées à fermer, on les avait listées. Parce qu'on ne peut pas enseigner dans une chambre. Parce qu'avoir une école, on ne peut pas faire sur un terrain, c'est visible. Maintenant, au niveau des dessins clandestines. Est-ce que on a déjà lissé certains? Oh, si on a lissé, vous allez nous en faire ça.
Non, pour le moment, non.
Ah, d'accord. Sinon, je vois que ça serait un peu compliqué. Parce qu'il y a certains même qui en ont dans leur chambre, qui vont dépasser même leur salon avant d'aller à la situation. Est-ce que le ministère de la Santé peut atteindre le but de ce qu'il cherche? Puisque beaucoup ont suivi, ont vu que maintenant, il faut créer son propre public sur sa ressource. Oui. Quelqu'un s'amusa en disant que la première année en médecine, on dit qu'un patient est guéri. C'est une tête. Hein? vous allez à la morgue, les gens vous poursuivent avec le numéro de corbillard, de cercueil. Je ne sais pas est-ce si vous avez un mort ou bien quelqu'un les appeler comment. Tout est devenu commun. Or, concernant la politique, on laisse la politique aux politiciens. Hein, parce que, on va voir ce que M. Jasson a proposé, comme l'a dit M. Ambroise, allons manger parce que l'union a tout pris. Donc, on est revenu dans le parti unique du RDC. Hein, on ne peut rien. Donc, on va s'associer. Mais on souhaite aux autres de tenir le câble. Ça ira.
Merci. Merci, M. Nyamava, pour votre intervention. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Oui, c'est ici.
Oui, c'est madame ici, allez-y.
Voilà. Dis-moi, c'est toi où là? Il vit au Togo. Hein? Je lui fais un coucou. Et puis, dis-moi. Hein? J'espère aussi que ça se paye pas la rate. Et je vais venir en quoi. Bon, je ne vous suis plus beaucoup, hein, comme je l'ai dit, mais je sais que c'est le même problème. On a parlé des écoles. Et tout le monde règne sur nous.
Madame ici, on n'a pas parlé des écoles. On a parlé.
Ah oui, mais lui, il a parlé. Nyamavo a parlé.
Oui, mais Nyamavo faisait un lien entre école et les cliniques ou les structures sanitaires.
Les structures sanitaires.
On a plutôt parlé de ces structures sanitaires.
On est bien fait les badges, nous voulons aller à une colère. C'est-à-dire, il n'y aura rien tant qu'il n'y aura pas assurance. Pas de santé, pas d'école, pas de football, tout ça là, ça n'existera pas. Ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à terminer. Et puis, on n'a pas dit dans nos conclusions que c'est des mandats non limites. Ou quand ça arrive, 5 ans après, on entre en transe, on chasse tout, on met tout à l'envers, c'est pas normal. Hein? De vous à moi là, allez demander au président si en 2015, ton mandat n'est pas fini. Ton mandat est terminé. Hein? Ce n'est pas fini en 2015. Merci.
D'accord, merci Madame Messi pour votre intervention. 90-86-35-35. Oui, allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour, comment vous allez?
Allô,
décidément, il n'a pas de retour. Je salue le plateau parlant de la fermeture des cliniques sauvages. On ne pourra jamais arriver dans la mesure où on forme les gens et on les laisse. Des concours qui sont proclamés après un an où une partie prend fonction pendant que les autres sont encore à la maison dont les contrats ont été résiliés. Comment voulez-vous que ces gens se vivent? C'est Yetemé Yao depuis Dapaon. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, papa Sibiti.
Bonjour, mes directeurs.
Comment vous allez?
Ça va.
D'accord,
je
allez-y.
Je salue le fils de mon patron, Ambroise et Isidore aussi. Savez ce qui se passe. Nous devons vous donner nos conseils. Pour les cliniques, déjà, quelqu'un qui habite 5 km, 6 km, il a une clinique. Il y a certains de vos collègues. Mais directeur là, qui ont apprécié quelques cliniques. Bon, c'est par rapport à l'hôpital, l'accueil. Si certaines sont vraiment compétentes, il faut les accepter. Maintenant, je reviens je ne suis pas politicien, mais c'est un conseil. Les sénateurs ont dit à partir de 39 ans, je dis non, ce n'est pas ça. Les sénateurs, comme l'a dit quelqu'un, c'est des gens bien âgés qui ont le cerveau, qui vous disent mais ça, parce qu'un jeune de 3 et quelques, il a de la pulsion en lui, il attend peut-être à midi via 13 heures un rendez-vous avec une femme, avec une fille. Mais non, ce n'est plus l'affaire de l'État. Il faut que les gens soient âgés. Je ne dis pas que c'est ça. Maintenant, la nomination par le président ou bien de notre président de la République, ce que vous venez de dire, ce n'est pas ça. Mais si on doit nommer, c'est unir qui a beaucoup de députés, comme nous n'allons plus aller voter, c'est unir qui aura la majorité des sénateurs. Si je dis mal, et dites-moi, papa, tu dis, non, non, mais dans la, l'opposition. L'opposition doit aller. Si c'était avant, nous avons le droit, vous pouvez aller les voter. On peut voter tout le monde. Mais aujourd'hui, vous dites que c'est les conseillers ou les autres, les députés qui vont et c'est une île qui a la majorité. Donc les sénateurs, je pense que ça sera. Les sénateurs seront unis.
D'accord, merci beaucoup.
Si on va parler, dites-moi, papa, si vous avez mal parlé, nous sommes là pour vous aider.
Merci beaucoup, papa Sibiti. D'accord, merci beaucoup, papa Sibiti. On reçoit le dernier auditeur. Allô,
bonjour, Canal FM.
Oui, bonjour, Nestor. Votre radio à côté de vous fait un peu de bruit. Si vous pouvez diminuer son volume, ce serait intéressant. Allez-y.
C'est bon?
Oui, c'est bon, allez-y.
Ok. La journée nationale de reconnaissance à Dieu, je trouve que c'est une bonne chose. Déjà, notre papa, nous tous, le président croit en Dieu. Je voulais poser la question, quand on sait que le pardon, la restauration font partie des attributs de Dieu, de Jésus, quel programme la JNRD fait par rapport aux prisonniers? Et sur le plan politique, l'un des dépendants, si tu en as la peine, du régime parlementaire disait qu'il ne faut pas qu'un parti politique ait la majorité au Parlement. Quelle est son appréciation de la situation actuelle? Merci, Canal FM.
Non, mais décidément, notre ami, cher confrère Bénin, n'est plus avec nous. Il est déjà parti, puisqu'il a juste donné l'information concernant la JNRD. Alors, je lis d'abord cette réaction, hein, avant quand même de donner la parole à mes confrères pour un dernier tour de table. Cette réaction de Monsieur Nyamaku, c'est bien ça. Bonjour les amis, affaire de clinique sauvage, c'est un mal nécessaire. Le mieux, c'est de voir leurs compétences, le niveau, la qualité, etc., après de les évaluer et leur donner l'autorisation. Il y a parmi ces cliniques de bons infirmiers et médecins. Bonne émission à vous tous et c'est signé Monsieur Nyamaku. Alors, chers confrères, nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Et l'homme, vous avez écouté les uns et les autres, réaction?
Bon, j'ai pas de réaction particulière. Je crois que les auditeurs ont dit l'essentiel par rapport aussi au sujet dont on a débattu. Donc, je n'ai pas de commentaires aussi à faire. Bonne journée à toutes et à tous.
Merci, l'homme. Oui, Ambrose.
Par rapport à ce que Papa Sibiti a dit, je crois que d'abord c'est mon avis. Et pour moi, les faits sont têtus. Ce dont je parle, il sait très bien que c'est une réalité. Qu'à l'Assemblée, c'est une île qui a 99% ou 98% des députés. À la primature, c'est une dame de UNIR qui est là. Le président, il est de UNIR. Le président de l'Assemblée, il est de UNIR. Le Sénat, sûrement, sera majorité UNIR. Donc, je n'invente rien. Ce que nous nous demandons en tant que Togolais, c'est qu'on fasse en sorte que nous soyons dans un équilibre institutionnel pour la gouvernance démocratique de l'État, pour que les peuples ou les citoyens en bénéficient. Sinon, sans ça, il n'y aura rien. Ça fait 60 ans que le peuple togolais cherche à avoir de nouveaux visages au niveau, à la tête de l'État. C'est les mêmes personnes qui sont là. Il y a des ministres qui sont là 12 ans, il y en a qui sont là 13 ans, il y en a qui ont fait 15 ans, il y en a qui ont fait 10 ans. Les Togolais ont dépassé ça. Et les Togolais sont fatigués de ça. Je répète ça. Si je reviens encore l'autre jeudi, je vais lui répéter la même chose. Je n'ai rien contre lui. Mais les faits sont têtus. Il n'a qu'à faire un sondage dans le pays. Il saura que ce que je dis, c'est moins. Et donc je dis que le mois de mai, où le mandat de Fonda Sibé finira, on verra. Et si on verra, les institutions de la fameuse 5e République iront de bout en bout.
D'accord, merci Ambroise. Notre auditeur qui écrit « Bonjour Canal FM, avec toutes les manœuvres que le président Fornia Singbe est en train alors de faire pour devenir le roi du Togo, est-ce qu'il y aura le courage de féliciter la victoire de son homologue John Mahama du Ghana, c'est Kofi Akpété de Zangera. » Et c'est sur cette réaction que nous mettons un point final à cette émission. Merci à vous, Ambroise Pandro. Vous êtes le directeur de publication du journal des Guadiens. Et l'homme Kossi Atisobe, merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Merci d'être passé. Merci à tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi pour contribuer à ce débat à travers vos réflexions. Merci à vous. On se retrouve bien sûr demain. Demain, c'est bien sûr vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Mais sachez que Michel Tomega a assuré la mise en onde de cette émission. Jérôme Dakouté était à la mise en ligne. Je suis Pascal Lussou. Au revoir.